Bonjour, c'est l'heure du documentaire, une semaine où les documentaristes mènent ou accompagnent des enquêtes. Vendredi, ce sera une enquête en lien avec fin août 2005, quand l'un des ouragans les plus meurtriers de l'histoire américaine, Katrina, dévasta en 72 heures les rives du Mississippi, en particulier la ville de la Nouvelle-Orléans. Une inondation suivit la rupture de plusieurs digues, remplissant la ville en cuvette, causant la mort de plus de 1500 personnes et détruisant 200 000 logements. Sur les docks, s'était rendu sur place pour mesurer les conséquences à long terme, 3 ans plus tard, d'une erreur de planification environnementale, sanitaire et urbanistique. Jeudi, Antoine Saxe mènera l'enquête sur les sabotages du mercredi 21 novembre 2007, entre 4h et 6h du matin, sabotage vraisemblablement concerté sur des lignes TGV, quelques heures avant le coup d'envoi des négociations sur les régimes spéciaux à la SNCF et à la RATP. Dans la foulée, c'est la notion de désobéissance qui l'interroge. Mercredi, Yaël Mandelbaum retrace de la Shoah à aujourd'hui nos liens à la constitution de musée. Son point de départ est un fruit du hasard. À l'occasion d'une exposition d'objets prêtée par le musée polonais d'Auschwitz, un homme, Michel Lévy-Leleu, retrouve la valise ayant appartenu à son père, déporté et mort dans le camp. C'est le départ d'un documentaire qui interroge l'usage des objets dans les institutions de mémoire. Mardi, c'est Olivier Chomel qui se transforme en détective pour démêler les chevaux complexes des déclarations sur l'incendie de l'entrepôt des Belles-Lettres dans la nuit du 29 au 30 mai 2002 à Gagny dans l'Eure. Incendie qui détruisait les œuvres de multiples petites maisons d'édition. Aujourd'hui, c'est une enquête douce qui est menée, celle inventée par la FNAC en 1970. À l'époque, Paris est en pleine révolution urbanistique. On démolit les Halles, le Marais ou Montparnasse. On invente le Front de Seine. On rénove la place d'Italie. En lançant sur la ville des hordes de photographes, ce sont 110 000 photos qui vont être réalisées pour documenter une ville en mutation.
Voici donc une bien mauvaise nouvelle. Paris va disparaître, le Paris d'aujourd'hui, de 1970. Avec les moyens modernes, le bouleversement du visage de Paris s'accélère. Alors, oui. Des explications.
Oui, eh bien, ce sont des quartiers entiers qui sont transformés. Il y a par exemple l'aménagement des Halles centrales, du quartier Italie, l'opération Front de Seine, avec des tours qui se dressent déjà au bord de la Seine, devant la tour Eiffel, etc. C'est la raison pour laquelle une grande opération va être lancée, destinée à doter la ville de Paris d'archives photographiques, fixant le visage actuel de Paris avant toutes les transformations qui vont modifier ce visage.
Oui, alors cette opération portera le nom de « C'était Paris en 1970 ».
Et voilà, c'était parti. Couvrir tout Paris, j'étais en Solex à l'époque, donc j'ai zigzagué et j'ai commencé à faire les photos. Bien sûr, à l'époque, c'est de l'argentique. Je passais un jour en Solex devant le Palais de la Découverte, devant la statue équestre qui était en plein ravalement. Ça giclait de l'eau partout, etc. Et là, je me suis dit, mais je pars chercher mon appareil de photo parce que ça m'a l'air pas mal. Je suis repartie, je suis revenue, clic-clac, photo. Je crois que j'avais un Pentax à l'époque.
Quand les photographes amateurs capturent Paris.
On a appelé ça « C'était Paris en 70 », justement avec l'envie que ça passe à la postérité et qu'on s'en serve 30 et 50 ans après.
Attention, on est en 70, il y a plein de choses qui vont disparaître. Gardons-en un souvenir.
Le premier prix, c'était 10 000 francs. Et le deuxième prix, ce que j'ai gagné le deuxième prix de couleur, 5 000 francs. Et en 70, quand on a 25 ans, c'est pas mal.
Une palissade par-ci, un terrain vague par-là, plus loin des bulldozers, des pelleteuses et des grues. Derrière, des échafaudages, des bétonnières et des façades éventrées. Sur les palissades, des affiches et des restes de slogans gauchistes. Au milieu des terrains vagues, des épaves de quatrelles dans lesquelles jouent des enfants. Et coincés entre les grues et les bulldozers, des arrière-cours, du linge aux fenêtres, des murs lépreux, la Seine, des toilettes dans la cour, la place des Vosges, des portes cochères et des charrettes à bras. Et puis des concierges, des colonnes Maurice, des femmes pressées, des clochards et des ouvriers. Tout change. Les pâtés de maisons insalubres sont rasés. Les tours s'élancent vers le ciel. Les forts des Halles déménagent à Rungis. Et chacun veut accéder au confort et à la modernité. Mais les plus pauvres n'auront plus leur place dans cette ville toute neuve. Alors certains se disent qu'il faudrait peut-être photographier tout ça, histoire de garder des traces, des archives ou juste des souvenirs, comme on voudra. Et de cette idée très simple va sortir un grand concours de photographie amateur lancé par la FNAC. Un concours qui va faire un tas d'histoires, mais qui va surtout faire 110 000 photos de tout Paris au printemps 1970. Des photos qui, comme la Belle au bois dormant, dorment gentiment à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Elles y dorment depuis trop longtemps.
Voilà, on est dans cette salle-là, c'est la salle des commissions de la bibliothèque. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai apporté des gants pour pouvoir manipuler les photos. Je vous ai apporté le quadrillage pour que vous puissiez avoir une idée plus précise de ce que ça représente. Je vous ai apporté les photographies qui concernent le quartier de la rue de Lorraine et Butte-Chaumont, les Crimées.
Carole Gascard, archiviste et conservatrice à la Bibliothèque historique de la ville de Paris.
Et enfin, les photographies autour du front de Seine et la liste des photographes qui ont participé au concours avec leur numéro d'ordre.
Donc ça, en fait, c'est tout le quadrillage, carré par carré, tous les secteurs attribués aux photographes.
Il y en a 1755.
Carré ?
Oui, 250 mètres sur 250 mètres.
Et tous les carrés ont été couverts ?
Tous les carrés ont été attribués. Après, tous les photographes n'ont pas rendu les photos. Et je pense qu'il y en a 2800 carrés où on a reçu les photos à la fin du concours.
C'est-à-dire que plusieurs photographes pouvaient faire des prises de vue sur un même carré.
Oui.
C'est pour ça qu'on a un décalage entre le nombre de carrés au total et le nombre de photographes ayant participé.
Parce qu'il y avait entre 14 000 et 15 000 photographes qui ont participé. Mais il n'y en a que 2800 qui ont rendu des photos.
Avec Armelle de Crépy, on sillonne le 19e arrondissement sur les traces de ces vieilles photographies.
On est donc avenue Jean Jaurès, on est descendu du métro à Ourcq pour revenir un peu sur les lieux où vous aviez pris vos photos en 1970, donc en mai 1970, et vous aviez noté 127 avenue Jean Jaurès. Donc là, on est au 127, et alors qu'est-ce qui reste ?
Mais qu'est-ce qui reste ? Ça a disparu. Ça a été rasé.
Vous aviez photographié quoi ici ? Là, on a un grand immeuble où il y a quoi ? Au moins 12 étages ?
Au 127, j'avais justement photographié une cour intérieure. Une vieille maison sûrement insalubre. Ça, c'est typique de ce qui a disparu, quoi.
Alors, on n'est pas au mois de mai, hein. Alors là, on marche rue de Lorraine, donc qui donne sur l'avenue Jean Jaurès, dans un vent glacial.
Nous cherchons le 38 rue de Lorraine.
Bien, vous voilà donc renseignés, vous tous qui aimez votre capitale, vous tous qui aimez Paris et qui voulez voir survivre Paris, du moins par la photographie, et ce, malgré les progrès qui seront apportés dans les années à venir au fonctionnement de notre capitale.
Interactualité, 3 mars 1970.
Alors, si vous aimez Paris, si vous êtes amateur de photographie, participez, c'est le conseil que je vous donne, participez à cette opération.
Ah, voilà,
c'était Paris en 70.
On va se faufiler à la porte est ouverte, on se faufile.
Eh bien, je l'ai cette photo, là. Je l'ai cette photo. Eh bien, l'immeuble existe toujours. La façade a été recrépie. Et je suis devant la fenêtre que je photographiais. Ça, je la reconnais. Petit balcon avec du lierre.
Je suis Kurde, je suis Charlie. Voilà, on est en 2015.
En tout cas, l'immeuble existe toujours. Attends, on va faire la photo déjà. Je vais la re-photographier.
Et moi, je vais vous photographier en train de photographier votre ancienne photo.
Ah oui, oui, oh là là. Alors, voyons, voyons. Et alors, on passe au numérique, bien sûr. Se rapprocher un peu. Je me souviens que j'avais fait un gros plan. Voilà.
La FNAC avait une notoriété très restreinte à cette époque-là.
André Gouillou, ancien responsable de la communication de la FNAC.
Il y avait un cinquième, sûrement, des cadres moyens et cadres supérieurs qui savaient que ça existait. Néanmoins, c'était une entreprise qui était née en 54 et qui avait bien monté en puissance, boulevard Sébastopol. Et j'ai reçu un maire du 19e arrondissement à l'époque où les maires n'étaient pas élus à Paris, c'était des fonctionnaires nommés, qui faisait un petit concours sur son arrondissement, parce qu'il était passionné de photos, et qu'il avait compris que Paris allait être cassé complètement, puisqu'il y avait le projet de rénover le cœur des villes. C'était le moment du trou des Halles, c'était le moment où il y avait beaucoup de polémiques sur le changement d'urbanisme à Paris. Et au lieu de lui donner seulement un appareil photo gentiment, on a élargi avec quelques amis l'idée de faire photographier tout Paris par les photographes. Et on a appelé un concours photo qui consistait à tirer au sort un lieu, un petit carré de 250 mètres de côté. Et comme ça, on a eu des reporters dans tous les coins de Paris, même dans les voies de la gare de l'Est ou dans les tombes du Père Lachaise.
Un concours photo, ça va peut-être là-dedans. Bon, l'idée, c'était de photographier Paris, tout, cours intérieur, extérieur, rue, pont, avenue, un assemblage de tout ça, une vue totale de qu'est-ce qu'était Paris en 70. Je me souviens, moi, photographier l'hôtel de Normandie, oui. Ah oui, je me souviens très bien. Qui était tout encore, tout décrépit, tout. Bon, 70, c'est, oui, c'est l'époque des ravalements, on nettoie, on supprime aussi, on détruit aussi. Bon.
Alors, le jury, ben, j'ai pris les plus grands photographes, Jacques Lartigue, j'ai nommé ça maintenant.
Il y avait Cartier-Bresson, il y avait Isis.
Et oui, Isis, beaucoup, ils y ont beaucoup travaillé, parce qu'il a fallu des mois, des dizaines et des dizaines de réunions pour voir toutes ces photos. Et alors, c'était anonyme, évidemment, c'était par numérotage. Il y avait une organisation matérielle assez gigantesque. Et alors après on a fait des choses très larges, même Juliette Gréco a chanté une chanson, Claude Bolling a écrit une chanson sur Paris en 70, et puis il y a eu une carte de titulaire de participants au concours, vous voyez ce que je veux dire, Eric ? On a eu 15 000 concurrents au départ quand même, hein. Au mois d'avril 70, il y avait 200 ou 300 policiers au Halles pour le tirage au sort, parce qu'il fallait que ça se passe... sous contrôle d'huissier, il y avait 1800 petits carrés qui étaient répartis, et donc par tirage au sort, chacun avait un carré, il était plus ou moins content. Et on a réussi à ce que tous les carrés soient couverts, et même souvent plusieurs fois, quoi. Alors le tirage au sort, ça avait été un événement, parce que ça pouvait pas se faire autrement qu'un jour, à une heure donnée, donc les gens étaient, il pleuvait, c'était au mois d'avril, et les gens ont attendu 2 heures de passer un par un devant, pour tirer leur, ouais. Alors, le slogan, je me rappelle, on avait dit, dès maintenant, au centième de seconde, Paris se penche sur son présent. Voilà, c'était ça le slogan.
Le concours est ouvert très vite, les inscriptions démarrent demain et il faut se dépêcher puisque c'est avant le 15 avril.
Où s'inscrit-on ?
On s'inscrit 26 avenue Wagram à la FNAC et 6 boulevard Sébastopol à partir de demain matin.
Je me suis inscrite et j'avais reçu un courrier avec le numéro
Armelle de Crépy
de mon carré qui était le 297. 250 mètres sur 250 mètres. C'était autour du canal de l'Ourcq, de l'avenue Jean Jaurès, la rue Tadou et l'angle Léon Giraud, Ourcq. Et j'ai là sous les yeux, remis à la FNAC le 18 juin 70 au matin. Je pense que j'étais pratiquement la dernière à remettre mon... Voilà, inscription, démolition, rue de Lorraine, Porsche, rue des Pyrénées, cours 125, rue de Crimée, cours 127, avenue Jean Jaurès, chantier Belvédère,
Une cour, 13 rue Léon Giraud, petite, un balcon fer forgé au même endroit et une loge de concierge. Impasse de Verdun, église désaffectée. Et je vois que dans le sujet numéro 2, je devais choisir donc deux photos parmi ce carré. Alors, vous voyez, l'hôtel Normandie, péniche avec femme, pont mobile plus hôtel Normandie. Ben voilà, c'est de là que j'ai choisi.
Ben voilà, vous avez ici tous mes négatifs, là, puis agrafés après.
François Berton, photographe amateur.
Le contact qui permet de choisir.
Et donc on voit effectivement ce que vous aviez choisi. Et là on voit quoi? Une femme, une passante avec un chapeau.
Voilà.
Alors on voit aussi des jeunes femmes avec des ceintures, des pantalons à pattes d'éléphant. Oui, des tuniques encore ceinturées à la taille. Des gens qui lisent sur les quais.
Il y a un monsieur qui me fait un pied de nez. Je suis en train de le photographier. Il me fait comme ça. Bon, c'est amusant. Alors c'était le quartier autour de Saint-Méry. La rue de la Verrerie, la rue Saint-Bon, autour de Saint-Méry pratiquement. Voilà.
Et Beaubourg n'était pas encore construit.
Absolument pas, non. Je me suis promené dans les rues et j'étais frappé du délabrement qu'il y avait dans ce quartier qui est maintenant un quartier huppé. Bien, là, c'était le taudis, quoi. Hein. Et c'est là qu'on voit que toute une population pas très riche hein, a été complètement éjectée. Regardez ce qu'il y avait.
Hein. Là, on voit alors des façades d'immeubles. C'est pris dans une cour, hein, un petit peu en hauteur. Donc, j'imagine que vous avez monté dans les étages.
Voilà. Et c'est habité. Vous avez des rideaux aux fenêtres et tout. On voit du linge qui sèche dedans. C'est...
On voit les carreaux sont cassés, les toits sont abîmés, troués.
Et vous avez dans la cour une voiture. Une voiture qui est en... Par contre, autour, eh ben, c'est la destruction.
Oui, c'est des immeubles presque
éventrés. Voilà les allées qu'il y avait avec des murs lépreux. Hein. Voilà. Retrouver les... Celle-là, je me rappelle, j'étais rentré dans cette cour-là et la concierge m'avait viré à coups de balai. Vraiment, partez d'ici, chenapans. Bon.
C'était un concours qui était fait pour faire l'inventaire de Paris à cette époque-là, un petit peu comme Marville a fait l'inventaire de Paris avant les démolitions de Haussmann.
Claude Charansol, photographe amateur.
Et comme on était dans le centre de Paris, il se passait beaucoup de choses, entre autres toutes les démolitions des Halles. Et vraiment, il y avait des choses qui étaient complètement fascinantes. Parce que c'était à l'époque la démolition des Halles de Baltar, c'était la démolition de tout le quartier Beaubourg avant la construction du centre Pompidou. Alors donc, il y avait des photos qui étaient hallucinantes parce qu'on avait l'impression que c'était un peu des photos de guerre parce que tous ces immeubles qui s'écroulaient et en même temps, ça faisait mal au cœur parce que c'était des endroits où on avait l'habitude de vivre et de circuler.
Premier problème, celui des Halles, premier problème économique, celui des Halles et celui de la Villette.
Oui, une décision gouvernementale d'il y a un peu plus de 10 ans entraîne le transfert des Halles, d'une part en ce qui concerne les légumes, les fruits, beurre, fromage, fleurs, etc., à Rungis, et le transfert effectif aura lieu le 15 janvier prochain.
Maurice Doublet, préfet, 1er janvier 68.
Et ce complexe sera l'un des plus modernes du monde.
Un des plus modernes du monde. Je suis encore allé le visiter la semaine dernière. C'est une réalisation remarquable. C'est un chantier peut-être le plus important que j'en ai vu en Europe ces derniers mois. Et je crois que la réalisation sera parfaitement adaptée aux besoins et fera honneur à la France. En tout cas, c'est déjà plus un marché parisien, c'est un marché international.
Et monsieur le préfet, nos auditeurs, qui sont des touristes en puissance, se posent certainement une question. Est-ce que nous nous amuserons aux Halles de Rungis comme nous nous amusions aux Halles dans Paris?
Ce tout début des années 70, c'est une totale mise en cause de ce qui s'est fait depuis les années 60.
François Loyer, urbaniste et historien de l'architecture.
Et donc on est au moment où le virage culturel profond se fait. C'est-à-dire que 70, c'est quand même le moment où la démolition des Halles est définitivement programmée et va être réalisée l'année suivante. Et on est 4 ans après la révolte contre la démolition du quartier des Halles par les associations culturelles. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est en train de changer, mais qui n'a pas encore changé. La date qui va être la date clé, c'est l'arrivée du nouveau président de la République, Giscard d'Estaing, qui décide de renoncer au grand projet qui avait été porté jusque-là par l'État. Et je pense que ce concours de la FNAC exprime une position profondément ambiguë entre ceux qui disent « le passé, on l'enregistre parce que c'est maintenant qu'il faut l'enregistrer » et que tout va disparaître, et ceux qui se disent « non, tout ne va pas disparaître, on va faire des photos pour pouvoir garder ce qui est si important et qu'on va pouvoir retransmettre. »
Aux extrémités de Paris, là où il y avait, il faut bien le dire, un certain désordre, on va restructurer le terrain environnant et ceux qui le meublaient, et faire en sorte que, aussi bien sur le plan de l'habitat, que sur le plan des équipements publics, que sur le plan des espaces verts, que sur le plan de la desserte routière, nous ayons quelque chose d'aussi satisfaisant que possible.
D'ailleurs, je crois que ces quartiers bénéficieront de la nouveauté et des expériences faites dans d'autres pays. Les villes seront, les quartiers seront un peu suspendus.
Oui, c'est en fait allusion au fait que c'est exact. Là, c'est mis à 15. On a prévu ce qu'on appelle un système de dalles, qui est peut-être un système assez coûteux, mais qui permet aux piétons d'avoir une circulation à part qui distingue et différencie de la circulation automobile. Et que l'on crée un centre de vie avec des commerces, avec une animation très réelle, au-dessus de l'animation actuelle, du niveau actuel, qui demeurera lui également très, très actif et très animé.
J'ai gardé de ma jeunesse le numéro de match, qui était en 68, je crois, sur le Paris du futur, qui était une sorte de vision d'une niaiserie totale, parce que les dessins étaient faits pour le grand public. Donc on y voyait des hélicoptères qui volaient, etc. Des tours partout, etc. Et le secteur idéal était Beaugrenelle. C'était la ville du futur, ça allait être le paradis sur la terre. On allait se débarrasser de ces rues étroites, sombres, etc., qu'on critiquait depuis le 19e siècle. Et chacun vivrait dans de belles tours avec des jardins à ses pieds. Et puis, on imaginait pouvoir intervenir sur quelques très grandes autres zones. Alors, il y en avait qui étaient évidentes, c'était les propriétés de la SNCF. Et donc, on a lancé des projets qui étaient la destruction des gares. Et à l'époque, tout devait disparaître. Je me souviens de projets de démolition de la gare Montparnasse, qui étaient les premiers qui ont été réalisés, suivis par la gare de Lyon, qui a été quand même fortement grignotée, suivi par la gare de l'Est qu'il fallait faire disparaître, la gare du Nord, la gare Saint-Lazare. C'est-à-dire que finalement, il ne devait plus rien rester de tout ça, et on devait faire, à l'époque c'était Pierre-Yves Digène qui était le patron de l'atelier parisien d'urbanisme, qui était allé se promener au Japon, qui est rentré fasciné par la gare de Shinjuku à Tokyo, et qui voulait faire un Shinjuku à Paris. C'est-à-dire qu'il imaginait, ce qui était en partie fait au Halles, des couches superposées de transports publics entre lesquelles on mettrait d'immenses grandes surfaces commerciales. Et là, il fallait partout où on pouvait dominer le foncier, tout raser, creuser à moins 30 mètres, construire ces énormes infrastructures et faire ce qu'il estimait la ville du futur. La dalle des Olympiades, tout le monde regardait ça avec stupéfaction. Et puis c'est maintenant qu'on voit que la gestion de ces tours est extrêmement coûteuse, que la dalle n'est pas urbaine, que le commerce s'y maintient dans les plus grandes difficultés, que les connexions avec le quartier sont pas bonnes, etc. Mais à l'époque, on posait des objets architecturaux qui étaient un plateau et des tours posées dessus, et on se disait « ça marchera ». J'ai commencé à sentir que ça allait mal quand on a fait les voies express. C'est la technologie qui l'emporte, et surtout du temps de Pompidou où les choses se sont très violemment cristallisées. Donc, l'expérience de la FNAC, à l'époque où la FNAC était une culture contestataire, on ne doit pas l'oublier, cette expérience, elle exprime une sorte de signal d'alarme de l'époque.
Déjà, le fait que les titres utilisent l'imparfait démontre un certain sens que Paris est déjà en train de disparaître.
Catherine Clark, chercheuse.
Donc, on voit une certaine nostalgie pour un Paris qui disparaît trop vite aux années 70. Il faut se rappeler qu'on est avant 1974, où Valéry Giscard d'Estaing a mis fin à la construction des tours à Paris. Donc, on est vraiment dans une période où Paris est bouleversé.
Oui, on pense à l'opération Montparnasse, à Beaugrenelle, les Halles.
Donc c'est justement aux Halles, dans un des pavillons, qu'on va retirer ces carrés. Le 1er mai, quand le concours est lancé, les photographes se retrouvent aux Halles pour avoir une petite enveloppe avec le carré dedans qu'ils vont photographier. Et puis, à la fin du concours, on va exposer ces photos. Donc on les expose à l'automne de 1970. Dans justement un des pavillons des Halles. Et donc c'est la première et la dernière fois qu'une grande quantité de ces photos vont être exposées. Et donc ce concours rentre tout à fait dans ce moment où les pavillons Baltard deviennent une espèce de lieu culturel où on voit des expositions, des spectacles, un patinoire, où on voit des gens vraiment veulent garder ces pavillons pour en faire un espace populaire et culturel au sein de la ville. C'est une proposition qui va être faite à la ville et qui ne va pas pouvoir aboutir. Déjà au XIXe siècle, au moment des grandes rénovations de Paris, avec Haussmann, l'haussmannisation de Paris, on voit une volonté de créer des archives photographiques de la ville. Donc la bibliothèque historique a ce fonds sur Paris en 1970, mais elle a aussi les photos de Paris au 19e faites par Charles Marville, les photos d'Adjet, donc des photos qui montrent la même volonté de figer Paris au moment des transitions. Les photos de Marville, c'était des commandes. Adjet, c'était moitié commande, moitié des projets qu'il lançait lui-même et qu'il proposait aux différentes institutions de la ville. Et la ville, au moment où on lance le concours, on dit qu'on aurait pu commander ces photos aux photographes professionnels, mais le prix serait trop élevé, en fait. Donc, faire appel aux amateurs, c'est aussi un moyen de faire passer cette commande, sans avoir besoin de payer les photographes professionnels.
Donc, on voit beaucoup de rues, avec des façades prises de la rue, et puis des cours prises de l'intérieur.
Les cours prises de l'intérieur. On avait un petit secteur, tous. Bon, j'ai fait 2-3 voyages, parce que j'avais, à l'époque, je travaillais, j'avais mon métier. J'étais médecin en Sartrouville. C'était un métier qui était difficile. Donc, c'était le dimanche, une nuit 3-4 dimanches, comme ça, me promener là-dedans. Et on rentrait librement, parce que ça commençait un petit peu à se... Il y a beaucoup de choses qui sont...
abandonnées quasiment.
Qui sont en voie d'être abandonnées. Hein. Il y a de la vie, vous avez des fenêtres avec des rideaux. Hein. Là, c'est la... Alors voilà, je vais bien celle-là. Vous avez un trou dans le mur, hein, et vous avez une cage avec un oiseau que l'on voit à travers le trou dans le mur. C'est, voilà, tout. Ça pourrait presque être le symbole de tout le quartier. Hein. Vous voyez ces trois femmes qui bavardent au coin de la rue, on les entend là.
Alors elles sont en chaussons, hein, toutes les
Elles sont en chaussons. Elles sont en chaussons, elles sortent de chez elles.
Elles ont des cabas, il y en a une qui a un manteau avec un col de fourrure qui a l'air assez élimé, l'autre avec un fichu.
Oui.
Il y en a une qui a une canne. Oui.
Et voici une vieille affiche de 68, délabré, dont le texte est 68 heures.
Alors, des militants ouvriers paysans. Alors, il y a des endroits où l'affiche est déchirée, donc oui. On ne peut pas tout lire. Le comité d'initiative lance l'appel. Il faut rejeter la participation bidon proposée. Il faut refuser de jouer le jeu d'un parlementarisme vidé de tout pouvoir et de tout contenu démocratique pour en finir avec l'état du capital.
Voilà, on est en plein 68, là. Hein. L'affiche est rongée par la pluie et le vent de 18 mois, mais elle est là. Hein.
Où est ma petite amie? Elle est dans mon Rolleiflex. Je le regarde perplexe.
Alors là, on est encore en plein vent, rue de Lorraine toujours.
Donc la rue de Crimée, vous avez des numéros ?
Oui. Alors, rue de Crimée, 125, on va regarder 125.
Alors, 141, 136, 125.
Oui,
mais 135. Hein.
Ah, on est devant ça ?
Non.
Posant pour mon relais flex.
125, non, vous m'aviez dit ?
Le 125, on l'a fait. Enfin, on est passé, il faut qu'on y revienne.
135.
Non, mais celle-là.
Elle est dans mon
Porsche. Visiblement, il a disparu.
Ça, c'est bien, ça aussi. Parce qu'on voit des affiches pour. Et on voit une espèce de graffiti où c'est marqué Libéré, le Dantec et le Brie. Donc, deux personnes communistes. Qui faisait partie de la partie communiste de Mao, des maoïstes qui ont été mis en prison et donc on demande leur libération en 70 sur les murs de la ville.
Avec Lisez la cause du peuple qui était leur organe de presse.
L'ORTF, je crois, participe à cette opération. Et sous quelle forme ?
Eh bien, le concours est organisé avec le patronage des autorités parisiennes et avec la participation de France Inter ORTF, parce que sans doute, l'ORTF est en service public, a senti la nécessité de soutenir cette opération.
Cela pourrait faire un magnifique montage, du reste, d'ici quelques années.
Interactualité, 3 mars 1970.
Roland Dordain, que je fréquentais à France Inter, qui était comme moi un ancien éclaireur de France,
André Gouillou,
a trouvé l'idée séduisante. Il n'avait pas d'argent, mais il avait l'antenne, et nous, on avait un peu de sous de la communication, et on a, avec tout ça, eu des milliers de gens qui se sont inscrits. On a ramassé 110 000 photos qu'on a solennellement offert à la ville de Paris. Et j'ai décidé d'en faire un événement de résonance nationale. Donc, pour moi, la présence de la radio était merveilleusement complémentaire. Je dois dire que France Inter a joué le jeu. Du coup, les fonctionnaires qui voyaient toujours mal un commerçant s'occuper de culture, ça a toujours dérangé tout le monde. On est parti sur une idée, pour moi, qui justifiait l'investissement financier, parce que je faisais monter la notoriété et je contribuais à une facette d'image en m'occupant de soutenir la photographie qui était en train d'exploser, quoi.
Le concours est critiqué à l'époque comme
Catherine Clark,
une façon pour la FNAC de vendre plus d'appareils photo, plus de pellicules, de vendre des services photo aussi, ce qui n'est pas faux. Donc la FNAC a sûrement eu des chiffres d'affaires grâce à ce concours, mais je pense que ça ne fait pas en sorte que le concours en lui-même ait quelque chose de mauvais. Ça démontre aussi une volonté de faire vraiment quelque chose qui a une valeur pour l'avenir et pour la recherche.
Ça rencontre, si vous voulez, les intérêts marchands des deux patrons de la FNAC, bien entendu, mais ça fait écho à une deuxième logique qui caractérise le développement de la FNAC, c'est la logique culturelle.
Vincent Chabot, sociologue.
Les deux cofondateurs de la FNAC étaient des passionnés de photos. Max Théré, par exemple, donnait, ça rejoint la fonction pédagogique de la FNAC, donnait des cours et des conseils en magasin. Dans les années 60, par exemple. Ce n'est pas le hasard, si vous voulez, c'est-à-dire que la photo est à ce moment-là en plein développement, et la FNAC vient reconnaître, légitimer cette pratique culturelle, et légitimer, il ne faut pas l'oublier, c'est le cas du concours, la pratique amateur de la photo. Tout le monde peut être photographe, il me semble que c'était l'un des slogans du concours organisé en 1970. Et bien là, au fond, on est effectivement en plein dans l'un des projets de la FNAC, ce souci de démocratiser la culture. Et sur plusieurs décennies, la FNAC a contribué à diffuser une culture moyenne, un art moyen, c'est-à-dire une culture pas vulgaire, mais pas élitiste non plus, à travers la photo. La FNAC, évidemment, c'est le produit initial. Ça a été ensuite le disque, le livre en 1974. Et puis la FNAC, ça rejoint la logique culturelle, a toujours voulu. Là, on retrouve aussi peut-être le côté militant, le côté intellectuel des deux cofondateurs de l'entreprise, animer des débats, proposer au fond dans ces magasins des événements indirectement marchands, des concerts, des expositions, des rencontres avec des écrivains, etc. Et des expositions photos. Et le concours, de cette façon-là, rejoint cette organisation d'événements.
Voici un jeune. Bon, tu as quel âge ?
14 ans.
14 ans, tu fais de la photographie ?
Oui.
Et ils sont formidables. Tous les jeunes font de la photographie. Tu as un appareil photographique
oui.
Ou tu viens en emprunter un ici?
J'en ai un.
Qu'est-ce que tu fais comme photographie?
Oh bah les paysages, mes copains, tout le monde quoi.
Tu es content généralement de ce
oui,
que tu fais?
Oui, je suis content.
Est-ce qu'il y a des gens qui te complimentent, qui disent
oui.
que tu es un vrai petit photographe?
Oui, oui.
La FNAC avait une philosophie très affirmée. Nous défendions le commerce de centre-ville par opposition aux usines à vendre de périphérie, persuadés que le commerce était un élément essentiel au maintien d'un urbanisme conséquent. Donc nous battions pour que les halles qui étaient parties à Rungis ne créent pas un désert dans le cœur de Paris, c'est-à-dire autour du Châtelet. Nous, on soutenait la défense des halles de Baltard. On avait voulu que ça soit gardé partiellement. Et on se battait pour qu'il y ait de l'animation dans le cœur des villes.
C'était la grande époque hein, pour la FNAC à l'époque. Hein.
Armel de Crépy.
Il y avait un dynamisme. J'étais tout en forêt. J'allais à toutes les expositions, les vernissages, photos, etc. Et tout.
Et alors, qu'est-ce qu'il donnait comme conseil pour gagner le concours? Parce que je crois qu'il y a un des numéros.
Ah oui.
C'était celui-là, je crois. Voilà, comment gagner le concours photo.
Comment gagner le concours photo. Le concours. Et celle dit ceci dans son éditorial. L'opération C'était Paris en 1970 et l'immense concours photographique et la campagne témoignent également de notre volonté de voir notre entreprise être autre chose qu'un simple organisme de distribution moderne. En exhortant nos amis et adhérents à participer à cette manifestation, nous ne voulons pas seulement constituer un témoignage irremplaçable de Paris de notre époque, nous voulons leur donner l'occasion d'améliorer leur technique photographique, d'appliquer leur sens de la découverte et leur façon de voir les choses. Ben oui, tout est dit.
Les 10 questions que vous vous posez.
Les 10 questions que vous vous posez sur le concours photo de la FNAC. Comment participer au concours? Les candidats peuvent s'inscrire tous les jours, sauf le dimanche, au boulevard de Sébastopol. Que faut-il photographier? Donc les 20 arrondissements.
Les carrés.
Sont découpés en 1800 carrés. Chaque concurrent doit photographier les monuments comme les recoins anonymes, découvrir une ville secrète dans les cours, les jardins privés, les points de vue les plus insolites et les plus inattendus. Tout Paris doit figurer dans ses archives, la ville, mais aussi ses cimetières, le bois de Boulogne, etc. Quels sont les prix? Il y avait 111 prix. 15 millions d'anciens francs en espèces sont décernés par un jury réunissant les plus grands noms de la photographie. Comment pourra-t-on utiliser ces archives de Paris? Pour que les 200 000 photos recueillies puissent être utilisables sans limitation par les archives nationales, la FNAC demande aux participants l'abandon de leur droit de reproduction de toutes les photos remises au jury, chacun restant propriétaire de son négatif ou de sa photo. Tous ceux qui le désirent pourront consulter pendant plusieurs siècles l'image de notre Paris actuel.
Un banc avec une déesse garée dans la rue, des palissades, des affiches sur des palissades, des immeubles modernes qui jouxtent des immeubles haussmanniens, un terrain vague avec des palissades, le chantier de l'avenue Émile Zola, c'est écrit derrière. Là, un éboueur, une dame qui promène son chien avec son caddie, une affiche... 1er mai 70, vive la lutte, lutte ouvrière. Des palissades, derrière la palissade, un grand immeuble et la tour Eiffel au loin, et puis devant des voitures qui sont garées.
On lance le concours début du mois de mars, et on avait déjà réuni une jury avec certains photographes, des personnages de la ville, aussi des gens qui travaillaient dans les musées, et les gens qui avaient travaillé dans certaines revues illustrées. Et on voit tout de suite la réponse des photographes professionnels, qui, eux, étaient très fâchés que la ville n'avait pas fait appel aux professionnels pour réunir cette documentation. Et donc, ce qu'ils critiquaient, c'est que, en faisant appel aux amateurs, la FNAC avait prévu la question des droits des photos. Parce qu'elle avait demandé aux photographes de renoncer à leurs droits. Et donc, c'est cette particularité du concours que les photographes professionnels vont critiquer le plus. Et donc, ils vont dénoncer le concours. Il y a Henri Cartier-Bresson, qui faisait partie du jury, qui va démissionner du jury. Il y a plusieurs autres associations des photographes. Donc il y a l'Association des journalistes, reporters, photographes et cinéastes, l'Association nationale des photographes publicitaires et le groupement des photographes illustrateurs qui vont condamner le concours. Et donc c'est à ce moment-là que la ville qui était associée au concours, donc il y a le préfet de Paris, le préfet de police,
le président du conseil de Paris,
qui ont soutenu le concours et ils vont démissionner aussi. Donc la ville de Paris ne va pas soutenir le concours quand elle est lancée au mois de mai. La presse fait une espèce de boycott du concours parce qu'on voit beaucoup d'articles au début, mais à la fin du concours, il n'y a aucun article. Donc on voit la FNAC qui achète des pages de publicité pour pouvoir annoncer, par exemple, l'exposition. Mais il n'y a pas eu de critique de l'exposition dans la presse. Parce que, justement, la presse a soutenu les photographes professionnels.
Ben oui, la FNAC dérangeait. En fait, il y avait une divergence politique fondamentale. Dans un cas, il y avait des boutiquiers. Et dans d'autres cas, il y avait une grande entreprise moderne de distribution d'un matériel moderne, la photographie, qui estimait qu'on pouvait réussir à vendre le matériel moins cher pour élargir les marchés, et qui en même temps faisait qu'une entreprise ne pouvait pas se retirer de son rôle dans l'urbanisme, en étant au cœur des villes. Mais on était tous des anciens dirigeants de jeunesse politique. Essel et Théré avaient été dirigeants de la jeunesse trotskiste avant la guerre. Et moi-même, j'avais été dirigeant de l'organisation de jeunesse et des jeunes syndicats, etc.
Oui, il y a eu un certain boycott dans la presse à cause de cette histoire de droit d'auteur.
Et oui, il y avait Roger Pic. Ils avaient fait une délégation, ils sont allés à l'Élysée, ils sont allés partout pour faire interdire. Ça a été dur. Maintenant que vous m'obligez à remuer ce qui est dans le fond de mon cerveau depuis 40 ans, ça a été assez décevant. On avait passé un long article publicitaire d'explication et la revue des cadres de la CGT avait refusé de le passer, vous voyez, par exemple. Et puis, alors, la bibliothèque historique, quand même, ils ont joué le jeu. Hein, les fonctionnaires, pas tout de suite, mais après, ils ont été passionnés quand ils ont vu l'enthousiasme. Comme toujours, quand on réunit 15 000 candidats pour faire des photos, voilà.
Les associations de photographes professionnels s'étonnent de voir cautionner par les institutions officielles une opération qui constitue de telles infractions à la loi qui protège les droits des auteurs. Monsieur Henri Cartier-Bresson a démissionné du jury du concours. Il aurait peut-être dû lire le règlement avant. Journal des journalistes, avril 1970. Somme toute, que veut démontrer la FNAC ? Qu'elle n'est pas directement bénéficiaire de l'opération ? Soit. Admettons que dans cette affaire, elle ne serve que d'intermédiaire. Il n'en reste pas moins que dans cette combine promotionnelle pour la FNAC, la ville de Paris, avec l'aide de la FNAC, a fait appel, encore une fois, au gogo bénévole et va se farcir un mois de photos d'une valeur de 2 milliards d'anciens francs. Et puis un petit détail demeure, la loi sur la protection des droits d'auteur est bel et bien violée. Le Canard enchaîné, 22 avril 1970.
Le Canard enchaîné va justement se moquer du fait que les amateurs sont des gogos, des bénévoles. Mais il y a aussi un photographe qui répond à cet article, qui écrit à la FNAC, qui dit que le Canard enchaîné nous a traités de gogos, et je le suis, j'assume, je suis gogo, j'aime beaucoup la photo, j'aime la ville, et ça ne me dérange pas de ne pas être payé pour ce genre de travail.
Alors il y avait une contrainte, c'est qu'en fait, on abandonnait tous ces droits à l'image en faisant ces clichés. Mais je me suis dit, bon, je contribue à la bonne cause, alors je veux bien faire ça. J'ai accepté cette contrainte par rapport à une sorte de mission, de documentaire, de reproduire les images d'une certaine époque.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être comment se sont passées les délibérations ?
Alors, j'ai loué un appartement en face de la FNAC. Ben, vous savez, 110 000 photos dans des pochettes, ça fait quelques tonnes. Et donc, il avait fallu ranger ça, il y avait des numéros. Et on a aménagé des systèmes de rayonnage dans toutes les pièces. Alors, ça a été rangé. Et le jury se réunissait 3-4 fois par semaine. On avait bien travaillé sur l'organisation. Je m'étais fait aider par des spécialistes. Et on n'a pas eu du tout de problème, quoi. La polémique nous a plutôt servi. Parce que tout le monde en a parlé, quoi. C'est-à-dire que on n'a rien cédé, on faisait pas ça pour le fric. Et l'essentiel, c'était de photographier tout Paris. Et alors, les photographes n'auraient jamais su faire ce que ces milliers de gens ont fait, quoi. Alors après, il y a eu une grande exposition qui a été partout. Elle a eu lieu même en Russie, avec beaucoup de succès. On avait fait, 150 photos parmi, avec les accords des photographes. Il y avait eu un tirage agrandi et, oui, l'exposition a eu beaucoup de succès.
Oui, oui, alors, du 15 octobre au 15 novembre, ah oui, c'était Paris en 70, exposition spectacle audiovisuel à partir des 91 645 photos de l'opération organisée par la FNAC. Les Halles de Baltar, temple de l'audiovisuel.
Oui, donc l'exposition était dans les Halles de Baltar.
Au rez-de-chaussée des Halles de Baltar.
Organisée par la FNAC et présentée dans la structure gonflable de Penel et Flipeau. Je n'ai plus trop de souvenirs de ça d'ailleurs. Et ça, c'est le résultat. Voilà, oui, ça c'est. Voilà, ils ont écrit le roman vrai d'une légende. Les amateurs de photos témoignent pour l'avenir. Faire survivre le Paris du dernier printemps. Paris de toujours, Paris la belle. Du juin à septembre, le jury délibère Roger Talon, Daniel Morodi, Jean Doucieff, tiens, Isis, Walter Caron, Jacques Lartigue, Jacques Bourjas.
Pas mal.
Ouais. Le 14 octobre, les dirigeants de la FNAC, André Hessel et Max Terrer, remettent les 100 000 photos à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Oui, oui.
Ça. Donc c'était un vrai travail d'archivage qu'on vous avait demandé.
Carrément. Bénévole.
Et quand est-ce que vous avez connu le résultat du concours? Parce que vous avez obtenu un prix.
Oui, j'ai obtenu, alors avec beaucoup de, de surprises, oui, bien sûr, beaucoup de surprises, par courrier. Je devrais d'ailleurs avoir cette lettre là, quelque part, d'ailleurs. Et j'ai ouvert cette lettre qui m'annonce que j'ai gagné le deuxième prix couleur. J'étais fière. J'avais... des amis autour de moi qui tout de suite me disent « Oh là, qu'est-ce que tu vas faire avec les 5000 francs ?» C'est tout de suite ça, une réaction des amis.
Et après, il y a eu un vernissage, comment ça s'est passé?
Oui, il y a eu un vernissage et je dois dire, peut-être qu'ils étaient dépassés par les événements, mais ils n'étaient pas à la hauteur du concours. Moi, je trouve que ça aurait été bien qu'on échange, qu'on dialogue, qu'on sache qui nous sommes, qui a gagné le premier, deuxième, troisième, qu'on en parle, quel carré ils avaient. Et non, je dirais, entre guillemets, je trouve que le jour du vernissage, c'est un peu foiré, quoi. On était tous là, je me souviens d'un vague sous-sol, on était tous là, plein de monde. Celle était au fond sur une estrade, annoncée dans un brouhaha, pas possible. Les gagnants. Voilà, c'était dommage. C'était Paris en 1960. Un peu de lendemain.
Des restes. Hop. On regarde d'autres photos.
Donc ça, on change de quartier.
Là, on est dans le Marais.
On est dans le Marais. Ouais, certain. Et ça, là, on voit un jeune couple devant une voiture. On voit la voiture derrière est ouverte. On voit quelques bouteilles de vin, des espèces de cartons qui sortent de la voiture. On a l'impression qu'ils sont en train de discuter ou de se disputer. Et donc, le photographe, dans ce cas-là, c'est une photographe qui a marqué derrière le retour du week-end, je crois, ça s'est écrit.
Rentrée du week-end. Dans la rue des Quatre Fils. Ils sont devant une 4L, en imperméable et en duffel coat, devant un carton, on dirait presque un film de Truffaut. On sent, chez ces photographes, en tout cas celui qui s'est penché sur le Marais, un attachement pour le vieux Paris aussi.
On retrouve une espèce de volonté d'inscrire le vieux Paris dans les archives photographiques.
Donc là, on voit des cours très sales, presque abandonnées, des immeubles vétustes, en mauvais état, des façades un peu lépreuses, des motos, et retrait là, des troupes américaines.
Ouais, on voit des affiches qu'on voit partout dans le Marais. Dans ces photos, c'est retrait des troupes américaines, seule solution au Vietnam.
Et puis, on a aussi des affiches pour un rassemblement national pour le Vietnam à Paris le 10 mai.
On voit une jeune Vietnamienne avec le chapeau typique hein, et qui était devenue l'emblème un peu à l'époque du Viet Cong, du Vietnamien qui résiste.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le rôle de la photographie dans l'étude de l'histoire. Donc, on voit des gens qui cherchaient les choses qui étaient déjà historiques, mais on voit les gens qui cherchaient aussi certaines scènes de la ville. Donc, on a une espèce de double historicité des photos, si ça peut se dire, où on voit ce que les gens pensent va être de l'histoire et ce qu'ils savent déjà être de l'histoire, des archives photos qui existent déjà.
Des restes de l'ennemi, quelques palais par-ci par-là, un obélisque, un opéra, des avenues embouteillées, des jardins miraculés, c'était Paris en 70. C'était joli quand même quand on voyait la Seine, c'était Paris en 70, de jolis noms de rues que l'on ne chantait plus. À quoi ça ressemblait, ce que tu voulais, c'était Paris en 70.
À quoi ça ressemblait, à ce que tu voulais, c'était Paris en 1970. Un peu de.
C'était un tel événement que Pierre Delanoë et Claude Bolling ont eu l'idée de travailler sur. Ont été excités par l'événement. Et ils ont apporté une chanson qui s'appelait C'était Paris en 70. Et Greg Hall l'a enregistré. Le disque est sorti. Ça a eu le succès habituel des disques de Greg Hall.
C'était Paris.
6-30-32, c'est de l'autre côté de la rue Jean Jaurès en fait. Là c'est 28, donc c'est peut-être de l'autre côté du boulevard. Ou alors ça a été détruit.
C'était Paris en 1970.
Merci à François Berton, Vincent Chabot, Claude Charansol, Catherine Clark, Armelle de Crépy, Carole Gascard, André Gouillou, François Loyer et Christian Vigne.
Peut-être de l'autre côté.
Archivina, Aurélie Marsay, prise de son, Étienne Leroy, mixage, Valérie Lavalard.
C'était Paris en 1970.
Je crois qu'il n'y a plus rien.
Un faux marché.
Oui, donc là, il y a un grand immeuble à la place.
Ouais, grand immeuble.
Et des buildings en pierre de lune plantés au milieu.
C'était Paris en 1970, quand les photographes amateurs capturent Paris. Un documentaire de Perrine Quervran, réalisé par Véronique Samuilov.
Merci pour votre écoute. Cette heure du documentaire est écoutable en ligne ou disponible en podcast sur notre site. Rendez-vous demain à 17h pour l'enquête d'Olivier Chomel et Yvon Croisier sur l'incendie des Belles-Lettres. Pour l'heure, musique, avant le journal de la rédaction de France Culture à 18h.